Bonjour et welcome, vous écoutez l'Amérique dans tous ses états, un podcast hebdomadaire français consacré à l'actualité des États-Unis, podcast enregistré et diffusé depuis New York au micro. Daniel Hoffman pour m'accompagner, mon collègue de la presse québécoise Richard Etu. Richard, bonjour.
Bonjour Daniel.
Et puisque ce podcast va être diffusé le lundi 18 février, je me permets de te souhaiter, Richard, un joyeux President's Day. Alors, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs de quoi il s'agit? Quelle est cette journée?
C'est aussi le Washington Day. En fait, c'était à l'origine une fête pour souligner l'anniversaire de naissance du premier président. Son anniversaire, c'est le 22 février. Mais comme on a changé en 1971 la date du jour férié, maintenant c'est le troisième lundi de février, c'est devenu le President's Day en l'honneur non seulement de Washington, mais aussi de Lincoln et enfin de tous les présidents américains. Voilà comment a évolué ce congé national.
Et qui dit jour férié dit aussi week-end prolongé hein, pour un grand nombre d'Américains qui vont en profiter pour prendre quelques jours de vacances. Alors aujourd'hui, on va vous proposer un format un peu différent des semaines précédentes. On a retenu plusieurs actualités marquantes qu'on va développer un peu à la manière d'une revue de presse. C'est quelque chose qu'on fera de manière assez régulière dans ce podcast. Et plus généralement, on va essayer d'ailleurs de varier les formats, les contenus pour vous proposer des choses différentes. Pour innover, l'idée de fond restant la même, commenter et décrypter l'actualité américaine sous tous ses angles. Voilà, cela étant dit, on va pouvoir commencer ce podcast, l'Amérique dans tous ses états, épisode 4, c'est parti. Ça devait être l'investissement de l'année, voire de la décennie pour la ville de New York. Amazon, le géant du commerce en ligne de Seattle, avait prévu d'installer son second siège social dans le quartier de Long Island City, dans le Queens. 25 000 emplois à la clé, des milliards de dollars injectés dans l'économie locale, et puis patatras, tout est tombé à l'eau jeudi dernier. La firme de Jeff Bezos a annoncé qu'elle ne venait plus dans la Big Apple. En cause, l'opposition d'élus et d'activistes de gauche très critiques vis-à-vis de certaines pratiques d'Amazon, notamment le refus de l'entreprise de syndicaliser ses employés ou encore les avantages fiscaux dont elle allait bénéficier. Face à cette grogne, Amazon a préféré jeter l'éponge et depuis, plusieurs responsables politiques qui étaient eux favorables au projet se tirent un peu dans les pattes en s'accusant mutuellement d'avoir provoqué la fuite de cette poule aux œufs d'or. Alors Richard, à qui la faute?
Il faut constater que Amazon a refusé le jeu de la démocratie. Ils arrivent dans une ville qui, contrairement à d'autres, est bien organisée au niveau social, avec des groupes d'activistes, des groupes syndicaux qui sont bien organisés, qui ont des revendications. Et face à ces revendications, au lieu de vouloir négocier, Amazon a décidé de partir, ce qui est quand même une illustration, à mon avis, d'une arrogance particulière, l'arrogance d'une compagnie qui est habituée, dans d'autres villes, à imposer ses volontés. C'est sûr que New York, c'est un contexte différent, mais on n'arrive pas dans une ville comme New York, comme si on arrivait dans une ville qui est à genoux devant un géant. New York est un géant et elle l'a fait savoir à Amazon.
Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait pourtant des sondages qui montraient qu'une grande majorité de la population locale était favorable à ce déplacement, ou en tout cas à cette arrivée d'Amazon à New York, dans le Queens.
Oui, il y a d'une part les gens qui voient la possibilité de 25 000 emplois qui sont promis. Évidemment, ce n'est pas nécessairement une réalité, mais c'est ce qu'on promettait. Sauf qu'il faut d'abord s'assurer d'être bien accueilli par le quartier où on s'installe. Et c'est là où il y a eu un problème. Les élus, les groupes des quartiers impliqués à Long Island City, dans Queens, ont dit non. Et ils ont manifesté et Amazon, face à cette situation-là, a tout simplement abandonné. Ce qui est particulier puisqu'on leur offrait quand même d'excellentes conditions. S'ils avaient réussi à implanter 25 000 emplois, ils auraient eu le droit à des avantages fiscaux totalisant 3 milliards de dollars, donc c'est pas rien. Ces avantages fiscaux-là qui étaient offerts à la compagnie la plus riche ou une des compagnies les plus riches au monde ou la plus évaluée à la bourse faisaient partie là, des facteurs qui ont choqué certains New-Yorkais.
L'actualité new-yorkaise a été également chargée la semaine dernière du côté judiciaire, puisqu'après 3 mois, une cinquantaine de témoignages et certaines scènes dignes des meilleures séries Netflix, le verdict a fini par tomber dans le procès du baron de la drogue Joaquin Guzman, alias El Chapo, le narcotrafiquant mexicain, ancien dirigeant du cartel de Sinaloa, reconnu coupable par un tribunal fédéral de Brooklyn des 10 chefs d'accusation qui pesaient contre lui, notamment un trafic de drogue, blanchiment d'argent, enlèvement. Un verdict sans surprise, Richard, et pourtant, El Chapo avait l'air abasourdi au moment où on lui a annoncé.
Oui, c'est étonnant dans la mesure où la preuve qui a été présentée au cours de ce procès, 56 témoins, 14 délateurs, des personnes qui étaient bien au courant des rouages du cartel de Sinaloa. La preuve donc était accablante, même si on a pris 6 jours pour en venir à un verdict, personne ne s'attendait à autre chose que coupable. Sauf peut-être El Chapo, on ne sait pas pourquoi exactement, on n'était pas dans sa tête, mais c'était une scène saisissante, semble-t-il, de voir cette personne étonnée. Alors que, moi je retiens notamment le témoignage du responsable du réseau informatique du cartel qui avait été chargé d'installer un système qui permettait à El Chapo d'espionner tout le monde, ses associés et même ses maîtresses. Et c'est grâce à ce témoignage-là qu'on a eu une idée de tout ce que pouvait tramer un chef d'un groupe comme celui d'El Chapo. Donc on entendait la voix, on a lu des messages où il préparait des meurtres, où il proposait des pots de vin, où il préparait des cargaisons vers les États-Unis. Donc tout ça était accablant et c'est ce qui rend la surprise apparente d'El Chapo, peut-être amusante, mais certainement remarquable.
Alors on va maintenant quitter New York pour Washington, la capitale fédérale, où Donald Trump a déclaré la semaine dernière l'urgence nationale pour financer le mur qu'il souhaite construire à la frontière avec le Mexique. Mur ou clôture, hein, d'ailleurs, la terminologie est assez incertaine chez le président américain. Ce financement, Donald Trump n'a pas réussi à l'obtenir du Congrès, notamment à cause d'une chambre des représentants à majorité démocrate qui s'y opposait. L'urgence nationale est donc décrétée, mais la bataille, Richard, pourrait se poursuivre sur un terrain légal.
En fait, sur le terrain légal et politique en même temps, puisqu'il est possible que le Congrès vote sur des résolutions qui viseraient à bloquer l'urgence nationale décrétée par le président Trump. La loi le prévoit. Il s'agit cependant d'une résolution qui doit être adoptée par les 2 chambres du Congrès. Donc, il est évident que la majorité démocrate à la Chambre voterait en faveur de la résolution. Qu'est-ce que le Sénat ferait? C'est la question. Il suffirait de quelques défections républicaines pour obtenir des 2 chambres une résolution bloquant l'urgence nationale. À ce moment-là, le président pourrait utiliser son veto pour renverser cette décision, et ça prendrait ensuite un vote des 2/3 des 2 chambres pour renverser le veto, ce qui est presque impossible. Mais on voit déjà un combat politique qui s'amorce ou qui se profile, où les républicains devraient prendre position sur ce que certains d'entre eux ont qualifié de violation de la séparation des pouvoirs qui est inscrite dans la Constitution américaine. Donc, souvent, on dit que les républicains sont pour un gouvernement limité. Ben, il va falloir qu'ils démontrent qu'ils sont sérieux ou non concernant ce principe.
Combat politique, peut-être aussi combat dans les tribunaux.
Il est évident que ce combat-là va être engagé de façon rapide. Déjà, des groupes ont décidé de porter la chose devant les tribunaux, soit en représentant un comté comme celui d'El Paso, qui sera touché directement par la construction du mur, ou d'autres intérêts. Donc, plusieurs groupes de la société civile pourront contester cette déclaration-là. Il s'agit de voir comment les démocrates de la Chambre vont choisir soit d'appuyer un des groupes ou d'eux-mêmes décider de s'adresser aux tribunaux. On s'attend à ce que tout ça prenne beaucoup de temps. et que pendant ce temps-là, le fameux mur ne voit pas le jour. Donc, il est possible que d'ici la fin du mandat du président, il y ait beaucoup de manœuvres judiciaires, mais pas beaucoup de travaux de construction.
On va finir, Richard, avec la polémique de la semaine, polémique qui concerne la députée du Minnesota, Ilhan Omar, fraîchement entrée à la Chambre des représentants. Omar, qui est d'origine somalienne, a publié la semaine dernière un tweet où elle laissait entendre que le soutien des États-Unis à Israël était motivé par les financements du lobby pro-israélien aux élus du Congrès. Alors ça a provoqué un tollé, y compris chez les démocrates, hein, c'est le camp d'Ilhan Omar qui ont vu dans ce tweet des connotations antisémites puisqu'il reprenait selon eux le vieux cliché qui associe les juifs à l'argent. Omar a depuis présenté ses excuses. Est-ce qu'on peut dire, Richard, que cette question du soutien américain à Israël, c'est le sujet le plus sensible lorsqu'on parle de politique étrangère aux États-Unis?
Oui, mais c'est un sujet qui n'a jamais été débattu comme il l'est en ce moment, puisque si le lobby pro-israélien et son influence étaient l'objet de discussion dans la population ou dans certains milieux universitaires, par exemple, il fallait quand même constater qu'au sein du Congrès, s'il y avait une question sur laquelle les républicains et les démocrates s'entendaient, c'est, de façon générale, cet appui solide, presque indéfectible, à Israël et l'arrivée de représentants comme Ilhan Omar et aussi comme Rachida Tlaib, qui est d'origine palestinienne et qui représente une circonscription du Michigan, introduit une opposition à Israël et à ses politiques qui n'existait pas auparavant. Cette opposition-là, il faut reconnaître qu'elle est présente au sein de la jeunesse de gauche aux États-Unis, au sein donc de l'aile progressiste démocrate, et cette aile-là va possiblement demander à être entendue par ceux qui aspirent à la présidence. Et c'est là où ça devient délicat, parce que les démocrates jouissent d'un appui solide au sein de l'électorat juif américain. Ça va de 70 à 80% selon les élections. Et cet appui-là pourrait être mis en question s'il y a des dérapages, comme on a connu cette semaine avec Ilhan Omar. Et c'est là où les démocrates doivent y aller doucement s'ils veulent conserver leur appui solide au sein de l'électorat juif américain. Et c'est pour ça aussi que l'opposition républicaine aime bien ramener ces accusations-là, sachant qu'ils pourraient s'attirer des votes qui autrefois allaient presque systématiquement aux démocrates.
Et on va observer attentivement comment les principaux candidats démocrates pour la présidentielle de 2020 vont s'emparer de ce sujet, donc effectivement extrêmement sensible. Richard, merci beaucoup pour tes réponses complètes et ce tour d'horizon de l'actualité américaine. On espère que ce nouveau format vous aura plu. On va d'ailleurs continuer à vous proposer des contenus, des formats différents, continuer à évoluer. On lit d'ailleurs attentivement vos commentaires sur le site de Richard sur lequel ce podcast est hébergé. N'hésitez pas à nous en laisser sur les autres plateformes de diffusion de ce podcast, iTunes, Spotify, Google Play. Voilà, ce podcast touche déjà à sa fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, stay tuned, restez branchés.